La grâce, la paix, nous sont données de la part de l'Éternel, notre Dieu. L'Église évangélique luthérienne de France et l'Église réformée de France viennent de s'unir, une sorte de mariage, pour former l'Église protestante unie de France. Dans l'actualité, cela peut sembler dérisoire, trois fois rien, et pourtant cela me semble un signe particulièrement important dans des temps qui sont particulièrement marqués par le clivage, parfois par des affrontements violents. Cette union, c'est le signe qu'une fraternité est encore possible de nos jours. Et c'est l'honneur du protestantisme d'en être le témoin. En entrant dans ce temple, en passant cette porte, vous avez franchi un seuil qui est rehaussé par un vitrail arborant la Légion d'honneur. Ce n'est pas simplement pour se souvenir que les premiers pasteurs de l'oratoire du Louvre la reçurent de Napoléon lui-même, ce qui n'est pas rien. Monsieur le grand chancelier, c'est aussi pour nous un signe qui nous oblige. C'est un signe des temps qui est en quelque sorte pour nous une vocation, être à la hauteur de ce que ce vitrail donne à voir. Monsieur le maire, madame et monsieur les élus, vous savez notre implication au service de la cité, un service pour tous. Le directeur du Centre d'Action Sociale Protestant, le directeur du Centre Social La Clairière incarnent dans leur lieu d'engagement, avec leur conviction, cet esprit de service qui nous anime. C'est donc cette communion, c'est cette foi commune que nous avons décidé de célébrer ce matin, et auquel nous avons estimé important de pouvoir vous associer. Célébration. Célébration de la fraternité qui l'emporte sur les divisions. Célébration de l'amour qui l'emporte sur l'indifférence. Célébration de la vie qui l'emporte sur toutes les formes d'attitudes mortifères. Je vous invite à vous lever. Nous allons nous rassembler par le chant. Le premier chant est celui du Répond qui se trouve dans le livret qui est au début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur, c'est devant lui que nous allons vivre ce temps de culte. Éternel, notre Dieu, en ce dimanche où tu nous rassembles, de tous les âges, de tous les horizons, nous te louons et nous te bénissons. Pour ta promesse d'être présent là où deux ou trois sont réunis en ton nom, nous te louons et nous te bénissons. Pour ta parole qui jaillit de l'écoute partagée, pour ton évangile qui se transmet de génération en génération, nous te louons et nous te bénissons. Pour cette route nouvelle que tu traces devant nous, pour le Christ vivant au milieu de nous, nous te louons et nous te bénissons. Amen. Je vous invite à ouvrir le psautier français. Nous allons chanter le psaume 67 dans son harmonisation B, c'est-à-dire l'harmonisation de Genève. Que Dieu nous bénisse et nous garde, nous chanterons les strophes 1 et 2.
Jesus.
place. Dans l'évangile selon Marc, on nous rapporte cet épisode. C'est un pharisien, un spécialiste de la loi qui s'adresse à Jésus et qui lui demande « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Et Jésus lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le grand, le premier. Un second cependant lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements, ajoute Jésus, dépendent toute la loi et tous les prophètes. Recueillons dans la prière. Éternel notre Dieu, nous ne voulons pas ce matin faire la liste de tous nos manquements et de toutes nos fautes, de nos faiblesses et de nos imperfections. Nous le savons bien, tu le sais bien, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Mais face à l'histoire de nos églises, face aux paroles, aux écrits et aux actes qui les ont menés parfois à l'indifférence, aux déchirures ou à la violence coupable, nous voulons ce matin déposer notre vie devant toi, toute notre vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que nous t'accordons lorsque cela nous plaît, mais toute notre vie, ses jours et ses nuits, ses grandeurs et ses faiblesses, ses élans et ses chutes, ses joies et ses angoisses, afin que toute notre vie soit placée devant toi. Qu'elle soit apaisée et ressuscitée par toi. Nous te demandons, Père, de nous libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de nous délivrer de la pensée que nous devons faire nos preuves à chaque instant. Nous voulons nous rappeler que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Le livre du prophète Jérémie, que nous entendons ces paroles qui peuvent être comme une réponse à notre prière. Voici l'alliance que je conclurai avec la maison de l'Éternel, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, et je leur pardonnerai leurs fautes. » je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Honoré ce matin la présence du professeur Nicolas Stricker qui enseigne à la faculté de théologie protestante de Paris et qui prêchera tout à l'heure, j'aurais pu utiliser une confession de foi se rapprochant d'Augsbourg. Mais nous l'avons maintes fois répété, l'union entre l'Église réformée de France, l'union entre cette Église et l'Église évangélique luthérienne de France n'est pas une fusion. Ce n'est pas une union qui lisserait toutes nos singularités, qui ferait en sorte que nous devions faire le deuil de ce que fut notre tradition. C'est la raison pour laquelle nous allons aujourd'hui encore utiliser cette confession de foi dite de l'oratoire, une confession faite de versets bibliques et qui exprime notre manière de comprendre notre place dans le monde et de comprendre ce que signifie être croyant. Le président du CASP a souvent l'occasion de dire qu'être chrétien, c'est avoir un accent, c'est faire entendre un accent chrétien dans une société. Non pas pour dire qu'il y aurait une barrière entre les chrétiens et le reste, mais pour dire que les chrétiens ont à faire entendre un accent particulier à la manière de Pierre, ce disciple de Jésus qui se fait reconnaître à son accent lorsque Jésus est arrêté. Alors, cette confession de foi dite de l'oratoire, c'est un accent dans le concert de l'Église protestante unie de France. Voici les mots auxquels je vous invite à vous associer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité, la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Prenons place. La première lecture biblique que nous ferons ce matin se trouve dans le livre du prophète Amos, dans le Premier Testament. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 7, je vais vous lire les versets 10 à 15. Alors, Amatsia, prêtre de Bethel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. » Et le pays ne peut plus supporter ces paroles. Car voici ce que dit Amos, « Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre. » Puis Amatsia, ce prêtre de Bethel, dit à Amos, « Visionnaire, va-t'en, enfuis-toi dans le pays de Juda. Mange-y ton pain, et là, tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. » Amos répondit à Amatsia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis bouvier, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple. » Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, « Ne prophétise pas sur Israël et ne bavarde pas sur la maison d'Isaac. » À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel, « Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ta terre sera partagée au cordeau, et toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. » Ensuite, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 6, je vais vous lire les versets 7 à 13. C'est Jésus qui parle et il s'adresse aux 12, les appelle et se mit à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement, ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Mais, disait-il, chaussez-vous de sandales et ne revêtez pas de tunique. Il leur disait, dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Et si quelqu'un, de par les gens que vous croisez, ne vous reçoive ni ne vous écoute, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Et puis dans l'Épître aux Éphésiens, ce passage sur lequel portera la prédication, dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1, je vais vous lire les versets 3 à 14. Épître de Paul aux Éphésiens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus depuis la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, cette grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui, d'avance, avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage. Cela en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Les psaumes que nous chantons sont donc harmonisés à Lausanne ou à Genève, ce qui, pour les fins connaisseurs, montre que ces psaumes sont issus de la tradition réformée. Nous allons donc faire un peu de place à la tradition luthérienne par le chant du choral 40, que vous trouverez à la fin du psautier dans le petit livret qui a été rajouté depuis que nous sommes une église qui a élargi sa tente. Le choral 40 nous donnera l'occasion aux strophes 1, 3 et 4 de chanter à quel point nous considérons que Dieu est notre secours. Et nous allons laisser le soin à notre organiste de nous jouer cette première strophe et ensuite nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. Levons-nous. Dieu notre Père, nous te prions de renouveler notre vie, de la rendre claire et belle sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles. Que ta joie nous attende au terme de ces chemins semés d'obstacles, mais bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants.
Thank you. Seigneur, ouvre nos oreilles afin que nous entendions ta parole. Ouvre nos cœurs afin que ta parole nous pénètre et nous nourrisse. Amen. Chers frères et sœurs, prendre au sérieux l'autre, ce n'est pas seulement chercher en lui ce qu'il partage avec moi. C'est aussi s'intéresser à ses particularités, à ce qui le distingue de moi. Jeudi dernier, j'ai présidé une soutenance à l'Institut supérieur des études écuméniques. Fondée par les trois facultés de théologie parisienne, protestante, catholique et orthodoxe, et dirigée par mon cher collègue Jacques-Noël Pérez, il y règne un esprit irénique. On y favorise un dialogue qui ne passe pas sous silence les différences confessionnelles. Le candidat qui soutenait son mémoire de master avait choisi comme sujet la prédestination, concept théologique compliqué, dont il exposait le parcours d'Augustin à Karl Barth. Il avait choisi ce sujet pour deux raisons. Première raison, la prédestination avait, à un certain moment, mis à part les réformés calvinistes de tous les autres groupes confessionnels. Deuxièmement, selon lui, la reformulation de ce concept au XXe siècle par le théologien réformé Karl Barth d'une part et le théologien catholique Henri de Blühbach d'autre part peut enrichir le dialogue écuménique. Il est vrai que la doctrine de la prédestination sous sa forme calvinienne a posé problème. On lui a reproché sa dureté. En effet, elle affirme que les uns sont prédestinés au salut et les autres prédestinés à l'éternelle damnation. Ces deux décrets éternels de Dieu ne dépendent d'aucune prévision de ce que sera la personne, de ce que seront ses actes. C'est comme si je disais « Je ne traiterai pas mes futurs enfants de la même manière ». J'aimerai le second et je rejetterai le premier, indépendamment de leur caractère, de leur comportement. Il peut être angoissant de se demander si l'on fait partie de ceux que Dieu aime ou de ceux qu'il rejette. Mais Calvin ne voulait pas prêcher la peur en prêchant la prédestination. Il voulait mettre en avant la liberté absolue de Dieu et sa fidélité envers ceux qu'il avait élus. La prédestination calvinienne pouvait consoler et encourager les réformés français persécutés, car ils pouvaient se dire « Nous souffrons, mais nous sommes une minorité mise à part par Dieu. Nous sommes ses élus. Il ne nous abandonnera pas. » La prédestination calvinienne peut paraître terrible lorsqu'on pense à la masse de ceux envoyés en enfer. Mais du point de vue d'une minorité persécutée, elle peut être consolatrice. La nouvelle Église protestante unie de France, dont nous célébrons aujourd'hui la création, est héritière des débats d'autrefois. Il est vrai que la prédestination ne pose plus vraiment problème. La plus grande partie des réformés ont abandonné la doctrine calvinienne de la double prédestination absolue en faveur d'une position qui met en avant l'élection au salut, se rapprochant ainsi des luthériens et des catholiques. La prédestination ne pouvait donc pas devenir un obstacle à la création de la nouvelle Église. Déjà, en 1973, la Concorde de Leuenberg, signée par les églises réformées, luthériennes et unie en Europe, se prononce pour l'élection au salut seule. Bref, la prédestination ne nous sépare plus. Mais nous pouvons réfléchir ensemble sur l'héritage que présente la doctrine calvinienne et les possibilités de repenser la prédestination au sein de notre Église et dans le dialogue œcuménique. En Christ, Dieu nous appelle au salut. En lui, nous sommes élus au salut. Je vous rappelle le texte qui est à la base de la prédication d'aujourd'hui. En lui, Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Une bonne nouvelle. Dieu fait de nous ses enfants en Jésus-Christ, son Fils, par son Esprit. Dieu nous veut du bien. Aucune incertitude, aucun doute pour l'auteur de l'Épître. Nous sommes prédestinés au salut, à la vie éternelle, parce que Dieu, dans son amour, a décidé de faire de nous ses enfants. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, dit le texte, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. En Christ, nous sommes devenus héritiers. Héritiers de quoi ? Hériter n'est souvent pas chose facile. Les cas où l'héritage relève plus de la malédiction que de la bénédiction sont légion. En voici un cas. Le père est mort il y a longtemps. La mère perd la mémoire. Elle ne peut plus vivre seule. Les frères et sœurs se réunissent pour parler de l'héritage, de la grande maison des parents, de la mère. Ils décident que c'est à l'aîné de s'installer dans la grande maison pour prendre soin de la mère, lui et sa famille. La vieille dame, elle, n'est pas contente. Elle trouve que ses enfants exagèrent, que tout cela n'est pas nécessaire, n'est pas commode. Les frères et sœurs, qui habitent loin, regardent d'un œil suspicieux l'aîné et sa famille. La situation dégénère. Comme redouté, la relation entre la mère et l'aîné et sa famille devient difficile. Les autres se font des soucis, les uns à cause de l'état de l'héritage, les autres à cause de la mère dont l'état de santé s'empire. La famille se réunit, on se dispute. Toi, tu ne vois que ton avantage, mais ce n'est pas toi qui prends soin d'elle tous les jours. Tu ne sais pas comment elle est. Vous ne pensez jamais aux choses nécessaires. Qui va s'occuper des travaux à faire? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'argent pour cela? Un héritage terrestre, une dispute bien terrestre. La mère s'éteint, la maison doit être vendue, la famille n'arrive pas à se mettre d'accord. Pendant des années, il n'y a plus de contact entre les enfants. Nous sommes trop différents. Je ne lui pardonne pas ce qu'il a fait à maman. une histoire de peur, de souffrance et de malentendus. Dans notre nouvelle Église protestante unie, nous sommes aussi des héritiers. Les héritiers d'une histoire commune et de notre propre histoire. Si l'on voulait faire simple, les réformés héritiers du désert, les luthériens héritiers des églises de l'ambassade de Suède, en tout cas à Paris. Dit de manière encore plus simpliste, les héritiers de Calvin versus les héritiers de Luther. Évidemment, notre héritage est plus riche que cela. Calvin hérite aussi de Luther. Les luthériens français sont aussi les héritiers de la prédication et de la piété réformée. Le comte de Montbéliard fait venir le théologien réformé Guillaume Farel pour prêcher la réforme. Depuis sa création en 1877, la faculté de théologie protestante de Paris est luthéro-réformée. Et pourtant, il arrive et il arrivera que les héritiers de la réforme se disputent. Au sein de la Fédération protestante unie de France, par exemple sur la question du mariage homo, mais aussi au sein de notre propre Église. « Toi, tu ne vois que ton propre avantage, » disent les uns. « Vous ne pensez jamais aux choses nécessaires. » Et on entend aussi, toujours, « Nous sommes trop différents. » Ce sont des propos que nous avons entendus, ou peut-être même exprimés, au cours du processus de la création de la nouvelle Église. Ce sont des propos qui accompagneront notre réflexion théologique, pratique et financière. Héritiers d'une histoire bien terrestre, de doctrines bien ancrées dans l'ici-bas. L'unité, la paix, le respect de l'autre nous sont donnés comme tâche, pas comme évidence. Mais ce n'est pas tout. Le texte nous parle d'un héritage céleste. Qui va le distribuer? Les églises? Les comptables? Non. C'est Dieu lui-même qui distribue l'héritage que son Fils a acquis. Son Esprit nous le donne dès aujourd'hui. Un héritage céleste parce que nous sommes les enfants de Dieu. Le ciel et la terre se touchent et s'ouvrent l'un à l'autre. Avec le Christ, nous devenons les héritiers du royaume de Dieu. L'héritage céleste enlève toute barrière. Il n'y a plus de différence d'histoire, d'origine, de culture, de sexe biologique ou social. Comme Paul, l'auteur de l'Épître aux Éphésiens était judéo-chrétien, quelqu'un qui avait entendu parler de Jésus dans une communauté juive, quelqu'un qui était juif et chrétien. Et l'Épître se fait l'écho de cette dispute entre frères et sœurs qui était celle entre judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. Les uns disaient « Dieu a rejeté les Juifs. Ils ne font plus partie de ses enfants, de ceux qui vivent dans la grâce divine, qui reçoivent la foi et l'esprit. L'alliance est rompue, cette relation étroite qui les a distingués des autres, celle qui manifestait la confiance et l'amour que Dieu leur portait. Les autres avaient d'autres doutes. Nous ne sommes pas sûrs que la libération par Jésus, le Messie, concerne les païens qui ne respectent pas la loi. » Dans cette querelle, l'auteur de l'Épître prend position. Il est vrai, l'élection ne concerne plus les Juifs. Elle est passée sur l'Église, la communauté de ceux qui croient en Christ, qu'ils soient d'origine juive ou païenne. Celui qui n'appartient pas à cette communauté n'entrera pas au royaume des cieux. Mais attention, écarter les Juifs, déclarer nulle leur alliance avec Dieu, a incité l'Église à adopter un anti-judaïsme qui transparaît toujours, ici et là, dans ses prédications, dans sa liturgie et ses distinctions théologiques. Juifs et chrétiens, des héritiers qui se disputent l'héritage en s'excluant mutuellement. Celui qui n'appartient pas à l'Église ne peut pas hériter le royaume. N'est-ce pas une vue trop étroite ? Faire partie d'une institution terrestre, bien que fondée par le Saint-Esprit, c'est cela, être héritier ? Calvin a essayé de donner une réponse nuancée à cette question. Elle n'est pourtant pas sans difficulté. Selon lui, les élus seuls, mis à part pour être le propre héritage de Dieu, constituent l'Église universelle invisible. Les élus sont connus par Dieu seul. Mais l'Église serait-elle finalement une société secrète ? Calvin opte pour la négation. Il est vrai, dit-il, que l'Église visible contient beaucoup d'hypocrites, mais c'est en elle, lieu de la parole, de la prédication, des sacrements, et lieu d'exercice de la discipline, que se concrétise l'Église invisible. Calvin, à la suite de Cyprien de Carthage, fait de l'Église visible, alors là où est prêchée la parole, la mère des fidèles. Il affirme que, hors le giron d'Icelle, on ne peut espérer rémission des péchés, ni salut aucun. Ces propos de Calvin limitent le salut à l'espace qu'est l'Église visible. Ils excluent, au lieu d'ouvrir, au lieu d'inviter à participer à l'Église en tant que communauté créée par le Saint-Esprit, qui souffle où il veut. Osons faire de l'Église une institution de liberté, un lieu où Dieu nous appelle sans nous y enfermer. Jésus est venu nous apporter la libération, le salut. Il n'est pas venu imposer de nouvelles frontières. L'héritage céleste, nous en bénéficions parce que le Christ n'a pas accepté les frontières, les limites imposées par la mort et le péché. L'héritage que nous lègue le Christ n'est pas celui d'un défunt, mais celui d'un vivant. Il ne sépare pas les uns des autres, mais, comme le dit l'Épître, réunit sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Comme Paul, l'auteur de l'Épître, qui appartient probablement à l'école paulinienne en Asie mineure, croit en un Dieu qui sauve par pure grâce. Dieu n'établit pas de critères d'appartenance à la manière des assurances et des banques. L'amour de Dieu concerne toute sa création. Il offre son enfant bien-aimé et nous acquiert notre liberté une fois pour toutes. Nous sommes libérés de la mort et de sa puissance. Nous sommes les héritiers du ciel, les enfants de Dieu. Nous avons reçu son Esprit qui est le gage de notre héritage. Cela veut dire, pour le monde dans lequel nous vivons maintenant, il faut œuvrer pour sa libération, agir en tant qu'héritier responsable. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. Dieu nous a libérés par son Fils, par son sang, précise l'auteur de l'Épître, faisant allusion à la fois à la mort violente et à la symbolique du sacrifice. Jésus a donné sa vie pour que nous vivions libérés. Il s'est soumis à la puissance de la mort. Il est mort comme si toute espérance de salut, d'accomplissement, mourait avec lui. Une mort violente, inventée par les Romains dans leur enthousiasme pour la démonstration de pouvoir, du pouvoir de la mort. Mais Jésus est vivant. Et il a institué comme héritier des biens célestes tout ce qui vit. L'héritage céleste efface les frontières. Les héritiers ne sont pas soit juifs, soit chrétiens, soit catholiques, soit protestants, soit réformés, soit luthériens. L'héritage céleste est un don qui libère. Et il ne concerne pas que l'être humain. Toute créature, tout ce qui vit, trouve son sens dans le dessein de Dieu de sauver sa création. Jésus est le chef de tout ce qui est. C'est lui qui donne au monde son sens. Aux pierres, aux papillons, à la fourmi, aux tilleuls, à la baleine bleue, à toute la famille humaine, tous les frères et sœurs, tous les enfants de Dieu, si différents qu'ils soient. Dans une telle conception du monde, les êtres humains ne sont pas seulement amis. Ils sont les enfants de Dieu, frères et sœurs, qui ne divisent pas l'héritage céleste. Le Dieu qui vient à notre rencontre dans les paroles de l'Épître est un Dieu qui ouvre le ciel. Il offre le ciel sur la terre en faisant de tous les êtres humains des enfants célestes, des héritiers du ciel. Le monde devient plus vaste. Il ne s'agit plus de posséder, de gagner, de surpasser les autres, d'avoir raison, ni dans le monde, ni dans l'Église. Dans son amour, Dieu nous adopte. Son héritage, Dieu ne le distribue pas de manière juste. Il répand son esprit sur nous en abondance, par amour. Et cette surabondance d'amour, il faut la fêter dans l'Église, en célébrant des bénédictions de mariage et des fêtes de l'Église. Fêtons la grâce. Célébrons l'abondance qui se manifeste dans cette nouvelle Église qui nous unit. Célébrons tout ce que nous partageons et tout ce que nous avons de particulier en nous sachant unis par l'amour de Dieu qui fait de nous ses enfants bien-aimés. Seigneur, aide ton Église à répandre ton amour, à parler et à agir comme l'héritière de la réconciliation que tu as apportée au monde entier. Amen.
Je vous invite à prendre votre recueil de chants, louanges et prières. Nous allons chanter ce cantique qui célèbre l'unité, le numéro 338, et nous chanterons les strophes 1 et 2. Levons-nous pour chanter la célébration de cette unité. Prenons place. Je vais maintenant donner la parole à André Ducrot, le président du conseil presbytéral de notre église, autrement dit du comité directeur de notre église. Juste avant, vous donner quelques informations sur notre agenda. L'entrée dans le mois de juillet nous fait irrésistiblement passer dans la saison de l'été, avec une réduction du volume d'activité. Et donc les deux seuls rendez-vous que je vous indique sont tout d'abord mercredi à 12h30 à la maison presbytérale, juste en face, une étude biblique consacrée au temps. Le temps sera le fil conducteur pour tout l'été, non pas le temps qu'il fait, mais le temps qui passe plutôt. Ne soyez pas trop obsédés par le climat. Et puis dimanche prochain, notre culte à 10h30 qui sera aussi l'occasion d'entourer une famille qui demande le baptême de son enfant. Et maintenant, je laisse la parole à notre président.
Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, monsieur le maire du 1er arrondissement, monsieur le représentant du maire du 2e arrondissement, mesdames et messieurs les élus, messieurs les pasteurs et responsables des missions représentant la Fédération protestante de France et l'aumônerie militaire, monsieur le président du Centre social d'action protestante, monsieur le directeur général du Centre du CASP, monsieur le directeur général de la Clairière, chers amis paroissiens, je vous remercie au nom du Conseil presbytéral et de toute la paroisse de l'Oratoire du Louvre d'avoir répondu ce matin à notre invitation et d'honorer de votre présence ce culte de célébration de l'Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée, en ce 30 juin 2013. Nous remercions aussi le professeur Nicolas Stricker, professeur de dogmatique à l'Institut protestant de théologie de Paris, pour sa prédication. Votre présence, ce matin, invité, paroissien, donne sens à la constitution de cette Église et à la démarche entreprise depuis de nombreuses années et menée à bien par les divers synodes de nos Églises réformées et luthériennes. Cette évolution est conforme au mouvement que nos frères protestants ont entrepris dans tous les autres pays d'Europe. Notre paroisse, pour ce qui la concerne, s'est engagée dans cette union avec enthousiasme. Comme toutes les églises issues de la réforme, notre gouvernance est démocratique et est régie selon le système presbytérien synodal. En tant qu'association loi 1905, dite loi de séparation entre l'Église et l'État, Elle a donc modifié ses statuts à la fin de l'année dernière au cours d'une assemblée générale extraordinaire afin d'adhérer à la nouvelle union d'église. Nous nous savons d'abord organisation humaine, rassemblant des chrétiens qui se réunissent pour vivre leur foi ensemble. L'église réformée de l'Oratoire du Louvre demeure aussi un lieu d'affirmation de la théologie libérale qu'elle professe depuis plus d'un siècle. Elle reste un lieu d'accueil pour tous, d'ouverture au monde, à la cité et aux idées. L'Église est par excellence un lieu de rencontre, d'échange, et vit des échanges et des rencontres qui s'y produisent. Nous privilégions en tant que protestants la rencontre de chacun avec Dieu, selon sa propre compréhension. Cela implique que chacun parmi nous est responsable de sa foi, responsable de son comportement, et que chacun est appelé à réfléchir par lui-même à partir de la lecture de la Bible. Soyons modestes, nous sommes aussi grandement aidés chaque dimanche par la prédication de nos pasteurs. La foi chrétienne révèle que nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Ainsi, elle renforce notre solidarité les uns envers les autres, en nous faisant prendre conscience chaque jour que nous avons besoin les uns des autres pour être toujours plus humains. L'Église protestante unie de France a tenu son premier synode à Lyon au mois de mai dernier. Et comme le titrait l'hebdomadaire protestant Réforme, cette Église est bien née. Elle a reçu les vœux des autres Églises, ainsi que les vœux de Monsieur le ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes. Elle constitue un nouvel élan pour le protestantisme français et pour l'ensemble de la société française. Nous ferons en sorte que notre paroisse, de l'Oratoire du Louvre, phare du protestantisme libéral, reste un lieu majeur de construction de l'avenir et d'ouverture de l'Église protestante unie de France. Je vous remercie de votre fraternelle et bienveillante attention. Si maintenant, monsieur le maire du premier arrondissement voulait dire un mot, nous lui cédons volontiers la parole.
Je voulais d'abord remercier le pasteur Woody et le pasteur Nicolas Stricker pour sa très remarquable prédication. Donner du sens à la prédestination, c'est un débat effectivement un peu dépassé aujourd'hui, mais qui donne aussi du sens à cette union, à la création de cette Église protestante unie de France, dans ce lieu très beau auquel nous sommes très attachés. Je voudrais dire que ce lieu est un lieu de prière, et c'est aussi un lieu de culture. Je voudrais remercier tout spécialement le pasteur Pernaud et le pasteur Woody qui ont toujours un sens très profond et très poussé de l'accueil, puisque la mairie du premier arrondissement a la chance de pouvoir organiser ici même dans ce très beau lieu de nombreuses manifestations culturelles grâce à vous. Alors c'est un lieu historique, nous avons célébré le centenaire de la clairière, le bicentenaire de l'installation de l'église réformée dans ce lieu, et aussi le quatrième centenaire de la création de la congrégation de l'oratoire qui a ici ses racines et je dirais son explication historique. Donc c'est un lieu un peu magique sur lequel se concentrent beaucoup de foi, beaucoup de culture, beaucoup d'histoire, beaucoup de patrimoine, beaucoup de passion et beaucoup de rencontres et d'esprit d'union. Alors puisqu'aujourd'hui vous célébrez l'union, je voulais très modestement m'y joindre. Merci.
À l'issue du culte, un verre fraternel vous sera proposé dans la grande sacristie. Ce sera l'occasion de pouvoir joindre le geste à la parole et pouvoir faire connaissance les uns des autres dans cet esprit fraternel. C'est maintenant le moment de l'offrande. Ne considérez pas comme un exemple de ce qu'est la prédestination ce temps de l'offrande. Il s'agit de pouvoir aller au-delà de ce que vous aviez éventuellement envisagé de donner et laisser libre que votre offrande soit un geste d'action de grâce. unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour tout ce chemin parcouru dans le dialogue, l'écoute et le respect mutuel. Nous voulons te prier pour ton Église, mais cette Église que tu appelles, et non cette Église dressée de main d'homme, enfermée derrière ses frontières. Nous voulons te prier pour cette Église qui est l'autre nom de l'humanité. Dans la mosaïque des visages divers qui la composent, donne-nous de nous découvrir tes héritiers, de savoir reconnaître l'unité qui est en toi. Rappelle-nous que l'Église est véritablement elle-même lorsqu'elle est Église pour les autres. Et pour cela, aide-nous à découvrir, au-delà des apparences, le réseau des liens et des engagements parfois discrets, tissés par les témoins de l'Évangile véritable, celui qui n'est pas limité simplement à un texte, mais celui qui permet à chacun d'accéder à son entière humanité. Aide-nous pour cela à discerner les vrais sujets. Et veuille te servir de nous, Seigneur, pour ressusciter l'espérance lorsqu'elle est malmenée, pour retisser la fraternité lorsqu'elle est déchirée, pour combattre encore et encore en faveur de la justice lorsqu'elle est bafouée. Inspire les élus, les dirigeants, afin qu'ils procurent à tous la paix, la justice et la liberté. Donne à chacun, quel que soit son lieu et son niveau d'engagement, le courage et la confiance nécessaires pour exercer pleinement ses responsabilités et rendre notre monde un peu plus vivable. Quant à nous, pour l'heure, nous faisons nôtres ces paroles que Jésus a enseignées à ses disciples, ces paroles qui dressent un horizon d'humanité devant nous, qui nous relèvent, même lorsque nous sommes accablés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevons maintenant la bénédiction. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.